Bienvenue sur Radio Mayuri Campus, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative que portent nos invités. Il s'agit des jardins de Frédérisca. Et pour en parler, je reçois Monsieur Philogène Jérémy. Vous êtes chargé de mission. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
À votre côté, Frédéric Bruno, vous êtes responsable technique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce projet, est-ce que vous pouvez, avant de rentrer en profondeur, parler de sa genèse et ses objectifs, les objectifs que vous poursuivez autour de ce projet, est-ce que vous pouvez nous présenter les jardins de Frédérisca? En quoi ça consiste?
Alors, les jardins de Frédérisca consistent à proposer un modèle microéconomique d'économie circulaire, en fait, dans lequel on proposera de l'activité, on proposera également des produits alimentaires, et qui sera du coup qui permettra de subvenir aux besoins d'adhérents consommateurs.
Alors, vous, monsieur Frédéric Bruno, à quel niveau intervenez-vous dans ce projet en tant que responsable technique?
Sur le terrain, assurer le suivi des cultures et tout ce qui concerne la partie production.
Très bien. Combien de temps il vous a fallu pour mettre en place cette initiative, puisque au fait on en est encore au balbutiement, hein, quelque
C'est
sorte.
Ça. Donc j'ai commencé les démarches en 2018 à mon retour en Guyane, et courant 2019 et surtout pendant l'année 2020 en pleine crise Covid, j'ai commencé les démarches, c'est-à-dire aller voir les partenaires potentiels, proposer un pré-projet, d'accord, et au fur et à mesure les portes sont ouvertes. Nous avons rempli des demandes de subvention, nous avons déposé un dossier auprès de la DJECT en vue d'obtenir notre agrément atelier chantier d'insertion, qui est en bonne voie d'ailleurs, en très bonne voie même. Et là, d'ici, nous espérons pouvoir démarrer d'ici quelques mois.
Quel est le statut de ces jardins de Frédérisca au niveau juridique?
Alors, les statuts de ces jardins, les jardins sont portés par l'association Yana Agroécologie, une association loi 1901. Voilà. On se base essentiellement sur le fonctionnement d'un réseau national qui s'appelle le réseau Cocagne. Donc, il s'agit d'exploitations maraîchères, justement, qui portent ce type d'ateliers chantiers d'insertion, qui sont déployés sur l'Hexagone. Et nous, la structure qui nous accompagne, en fait, est la structure toute jeune de La Réunion, les jardins de Saint-Bernard.
D'accord, donc vous faites partie d'un réseau.
Non, on espère intégrer ce réseau. Donc le projet, justement, vise à étudier la faisabilité, justement, d'une structure basée sur le fonctionnement du réseau Cocagne, et ensuite pouvoir intégrer le réseau, oui.
C'est la première fois qu'un tel projet prend naissance en Guyane, Monsieur Frédéric Bruno. C'est la première fois qu'un atelier chantier d'insertion autour d'un jardin, en quelque sorte, naît chez nous.
Sur cette forme-là, oui. Mais il y a eu la RAG qui utiliser justement comme support l'agriculture. Et il y a eu aussi une structure sur Kourou, dont je ne me rappelle plus le nom.
À la base, vous êtes tous les deux agriculteurs, vous avez fait des études dans ce domaine.
Alors,
Philogène, Jérémy.
Alors, en ce qui me concerne, non, pas du tout. Moi, je suis issu à la base d'une formation juridique, ensuite je me suis orienté vers la gestion RH.
L'occasion peut-être de nous parler brièvement de votre parcours, peut-être. vous venez de rentrer au pays, vous...
Je suis rentré au pays en 2018, donc en fait j'ai fait ma licence de droit en Guyane. J'ai travaillé sur la Guyane, et il y a quelques années de ça, en 2014, j'ai pris la décision de partir pour donner un nouveau tournant à ma carrière professionnelle. Et l'opportunité s'est présentée pour moi d'intégrer une licence professionnelle en gestion RH. Et derrière ça, j'ai complété mes expériences professionnelles en travaillant pour des boîtes assez intéressantes, hein, sur l'Hexagone. J'ai travaillé pour une grande étude d'huissier, j'ai travaillé pour également un des leaders mondiaux des banques et assurances. Et j'avoue que ça m'a permis de découvrir une autre facette, en fait, du monde du travail.
Voilà. Comment du service, en tout cas de la partie RH en arriver à l'agriculture. C'est une passion pour vous ?
Oui, l'agriculture, c'est une passion pour moi. Cette passion est venue de mon grand-père, voilà, qui est décédé aujourd'hui. Mais quand je voyais mon grand-père s'occuper de ses cabris, de ses poules, de ses pintades, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre exploitation agricole. Ensuite, le fait est qu'il me fallait reprendre mes études et j'estimais avoir déjà fait suffisamment d'études pour avoir à reprendre des études dans l'agriculture. Donc, de là, étant donné que j'avais envie de créer une structure d'insertion, j'ai été voir Frédéric, qui, je sais, du coup, est un agriculteur chevronné. Et j'ai été le voir et je lui ai présenté mon projet. Et lui, il m'a parlé justement du réseau Cocagne qui l'intéressait beaucoup. Et ensuite, nous avons fait nos recherches, on a monté le dossier et voilà.
D'accord. Ok. Donc vous, Frédéric Bounot, à la base, vous êtes agriculteur. Vous êtes déjà installé dans le territoire.
Je suis en phase d'installation.
D'accord.
Mais ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine agricole.
Ok.
Et c'est une passion.
Okay.
C'est une passion. J'ai eu l'occasion de travailler à la RAG en tant qu'ouvrier agricole. Je suis rentré en 2016 à la RAG en tant qu'ouvrier agricole. Mon poste a évolué en passant d'encadrant technique à responsable de production.
Okay.
Et depuis, Jérémy a pris contact avec moi justement pour monter un projet agricole. Donc au fil de nos échanges, le projet a commencé à prendre forme et à tracer les grandes lignes directrices.
Ok. Alors pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent ou des internautes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cet atelier chantier d'insertion ? Qu'est-ce que vous allez y proposer au fait ?
D'accord. Donc les jardins de Frédérisca, du coup, ont pour objectif d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi. Donc par là, nous entendons les jeunes de 18 à 25 ans qui sont ni en formation ni en emploi. Nous entendons les demandeurs d'emploi de longue date. Nous entendons les seniors de plus de 55 ans. Voilà, toutes ces personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi, elles peuvent venir nous voir. Et nous allons du coup les accompagner pendant une durée d'un an. Nous allons les accompagner pour qu'elles puissent déjà, dans un premier temps, lever les freins qu'elles peuvent rencontrer sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et derrière ça, elles bénéficieront d'une formation action dans le domaine du maraîchage. Mmh. Ensuite, nous travaillerons avec elles à mettre en place un plan de développement des compétences personnalisées. Donc ces personnes-là, du coup, au fur et à mesure qu'elles évolueront dans le jardin, elles feront naître un projet, que ce soit personnel ou professionnel. Et nous les accompagnerons justement à concrétiser ce projet, que ce projet réponde à leurs attentes, et surtout aux besoins du territoire guyanais, parce que c'est un projet qui doit répondre du coup aux besoins des personnes en situation précaire et bien sûr aux besoins de la Guyane en termes de développement économique.
Vous avez eu les soutiens d'un certain nombre d'acteurs locaux dans le cadre de ce projet ?
Alors c'est en cours effectivement, nous avons des soutiens qui sont en train de se concrétiser et je dois reconnaître que oui, les acteurs économiques présents sur le territoire, ils n'ont pas été réticents, au contraire, ils ont été très réactifs même, je trouve. Ensuite, ce sont les formalités administratives qui prennent un peu de temps, mais hormis ça, oui, les acteurs économiques guyanais nous ont suivis. Là, nous concrétisons un partenariat avec la commune de Macoria. Nous sommes en face de concrétiser un autre partenariat avec la Glogal, qui nous accompagne dans le montage de notre dossier de demande de subvention. Nous sommes suivis entre guillemets par le DLA, la CRES aussi également nous accompagne sur ce projet et d'autres acteurs, oui.
Alors monsieur Frédéric Bounot, est-ce que vous pouvez nous parler de la localisation de ce jardin, quelle sera sa superficie, comment pourra-t-on s'y rendre, est-ce que c'est déjà déboisé, où en est le projet?
D'accord, donc la parcelle se situe sur la commune de Macoria, à l'entrée de Matiti, donc à proximité de la route. Il y a une partie boisée et une partie en savane.
Ok.
Donc là, on a attendu.
Jusque-là, je vous suis.
D'accord. Donc là, on a commencé, on attend d'avoir la convention signée pour attaquer les travaux, l'aménagement de sous-bois. Parce que la partie qui est boisée, il s'agira de couper les bois de section inférieure à 10 cm pour créer un sous-bois. et la partie savane, préparer les planches, les buts de culture, et aussi créer un sous-bois. Un double avantage, réduire l'impact du soleil en période de beau temps et faciliter la pénétration de l'eau avec les arbres dans le sol.
Okay.
Et protéger les cultures, ça permettra d'éviter d'avoir recours à des serres et à des produits chimiques.
Est-ce qu'il y a un volet d'écotourisme autour de ce projet? Est-ce que vous l'avez intégré? Vous y avez pensé?
Ça fait partie de nos axes de développement. Mais dans un premier temps, nous nous concentrons sur la partie insertion sociale et professionnelle, lutte contre la précarité, la malnutrition et la sous-alimentation. Voilà. Et il faut rajouter que si Frédéric n'a pas mis en avant le fait que l'on déboisera la parcelle, c'est parce que nous avons fait le choix de faire la promotion de l'agroforesterie.
Qui signifie quoi? Pour nous, c'est un mot, c'est du jargon.
Dans l'idée, c'est d'observer comment la nature fonctionne et de l'adapter pour nos cultures.
D'accord, ok.
Avant, on avait l'habitude de travailler sur la culture sur brûlis, la bâtie.
Ouais, bien sûr.
Ça nécessite de grandes surfaces, le temps de laisser les parcelles qui ont été cultivées en jachère. Là, il se trouve qu'on a une parcelle de 5 hectares. On ne peut pas se permettre de partir sur de la bâtie. Donc, dans l'idée, la partie qui sera en savane, la reboiser et cultiver dans le sous-bois.
D'accord. J'imagine que vous avez réalisé un business plan dans le cadre d'études de marché ou de préparation de ce projet. Vous prévoyez de pouvoir en vivre dans combien de temps? À peu près.
Les jardins de Cocagne atteignent l'équilibre des comptes au bout de 5 années. Donc nous, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. On espère pouvoir inverser la balance. C'est-à-dire que là, nous sommes dépendants à plus de 70% des financements publics. Et on espère passer à 30% de financements publics d'ici 5 ans. Et 70% de fonds propres. Parce que c'est ça le but de la manœuvre, c'est de créer une exploitation agricole autosuffisante et justement démontrer à nos financeurs que le projet, nous faisons en sorte que le projet soit viable et pérenne.
À terme, cette ferme agricole pourra dégager de l'argent et elle pourra générer des recettes?
Exactement, c'est ça le but, puisque nous comptons diversifier nos activités et du coup diversifier nos sources de revenus.
Vous allez faire quoi concrètement?
Eh bien, lorsque la partie production agricole sera bien développée, nous nous orienterons vers la transformation agricole. Et surtout que nous avons un gros volet de valorisation des déchets verts. Là également, nous avons une source de revenus qui pourrait également être exploitée.
Alors moi, concrètement, je ne vois pas trop comment vous allez gagner de l'argent autour de cela. C'est-à-dire, en fait, vous allez produire des tomates, des concombres que vous allez vendre au marché, pour qu'on comprenne.
Dans un premier temps, oui. Nous allons produire des fruits et légumes, des herbes aromatiques. Nous allons également...
Vous allez concurrencer nos amis Hmong?
Les concurrencer, non, puisque je pense qu'il y a de la place. Je pense que pour qu'il y ait vraiment de la concurrence dans l'agriculture locale, on a encore du boulot. Mais je pense qu'on va contribuer justement au développement et à la structuration de la filière agricole. Et derrière ça, donc oui, dans un premier temps, il s'agira de produire et de vendre. Sauf que nous avons priorisé le circuit court. Donc c'est de se constituer un portefeuille d'adhérents consommateurs. Et ensuite, nous pourrons proposer d'autres produits dérivés de notre production, en fait. Voilà pourquoi intervient la partie transformation agricole. Donc voilà, du coup, de la simple tomate, on pourra, par exemple, proposer du concentré de tomate, entre guillemets. Voilà, transformer nos produits, proposer des salades, par exemple. Pourquoi pas. On pourra également proposer des jus de fruits. Voilà, puisqu'on sait que en termes de
jus... Donc vous n'allez pas vous contenter de... produire les matières premières, vous comptez les transformer sur place.
C'est ça.
Mais est-ce que vous avez les compétences et l'ingénierie pour cela? Est-ce que vous avez l'environnement nécessaire pour pouvoir faire ce travail, puisque ça nécessite un savoir-faire, j'imagine.
Donc le savoir-faire, il s'acquiert. Voilà pourquoi le projet se trouve intéressant, parce que c'est un projet qui évolue en fait au fur et à mesure en fait de son activité. Et du coup, les compétences, si on ne les a pas, on va les chercher. Sinon, on va les faire acquérir. Nous avons des personnes qui ont du potentiel en Guyane. On n'imagine pas le nombre de personnes qui sont capables de développer des compétences à une vitesse ahurissante. Donc nous, on est là justement pour trouver parmi nos personnes, parmi les personnes que nous accueillerons en insertion, on espère également trouver nos potentiels que nous souhaitons du coup garder et faire progresser.
Là, vous comptez accueillir les premiers collaborateurs en chantier d'insertion à quelle date ?
Normalement, au 1er avril, on est supposé avoir nos 20 salariés en insertion.
D'accord. Voilà.
Nous avons fait appel à certains partenaires pour justement nous constituer un vivier.
Des prescripteurs ?
Des prescripteurs, tout à fait.
Pôle emploi, mission locale ?
Pôle emploi, mission locale. Nous avons l'APEG également qui nous accompagne dans notre recherche de profil. Nous avons l'école de la deuxième chance, un de nos partenaires prioritaires avec qui nous allons sélectionner d'ici peu des profils.
C'est quel type de profil que vous recherchez ?
Alors, comme je l'ai dit, de 18 à 25 ans, des demandeurs d'emploi de longue date, des bénéficiaires du RSA, des seniors de plus de 55 ans. Voilà.
Ce sont des gens qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps.
Exactement.
Vous pensez pouvoir obtenir un rendement avec ces genres de profils. De toute façon, dans le chantier d'insertion, c'est ce public-là qui est visé de toute façon.
C'est ce public-là qui est visé.
Et donc il y a tout un travail d'accompagnement que vous serez amené également à faire et pour remettre à l'étrier des personnes peut-être assez éloignées du marché du travail, n'est-ce pas ?
C'est ça le but du chantier justement. Permettre à ces personnes justement de se remettre en confiance et de revenir dans une dynamique de chercher du travail, de travailler d'ailleurs.
Et qui les paye pendant le chantier, Frédéric Bounot, ces personnes ?
C'est la DIEC,
okay.
Par le biais de l'ASP.
Ouais. On a une idée de la rémunération qu'ils vont avoir ?
Mais ces personnes seront sur une base horaire du SMIC, elles travailleront 28 heures semaine.
Ok.
Voilà.
D'accord. Aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin
Nous avons lancé une campagne de crowdfunding sur le site Eloasso. Justement, nous sommes à la recherche de 4000 euros à peu près pour justement finaliser le montage de certains dossiers administratifs dans le but justement de concrétiser notre partenariat avec la mairie de Macouria. Donc voilà pourquoi vous avez dû voir passer notre lien sur vos réseaux. Et voilà, nous sommes toujours en recherche de financement parce que nous avons des partenaires qui nous suivent. Et là, nous avons pu boucler 80% de notre prévisionnel. Nous sommes encore à la recherche de 20% justement de la somme, de 20% du montant nécessaire au bon déroulement de l'action. Mais nous avons bon espoir. Parce qu'il y a des acteurs justement sur le territoire, nous n'avons qu'à les convaincre et nous nous entourons de personnes compétentes en fait pour nous accompagner dans le montage de nos dossiers. Et j'estime qu'à partir de là, à partir du moment où on met toutes les chances de notre côté, on ne peut que réussir.
Cette campagne a commencé quand et vous avez recueilli à aujourd'hui quel montant ?
Alors la campagne a commencé la semaine dernière, nous avons recueilli à ce jour 305 euros.
Ouais, on est loin des 4000, comment peut-on booster la somme ?
Eh bien, on peut booster la somme justement en diffusant massivement le lien. Nous allons y contribuer personnellement. Voilà, je ne vais pas vous mentir, nous allons y contribuer personnellement.
C'est pas le but.
C'est pas le but, tout à fait. Je dois vous avouer que nous avons eu un don, voilà, un don de 1800 euros qui nous a permis de payer la première partie justement de l'étude. Qui n'est pas passé par la campagne. On m'a contacté personnellement et la personne m'a proposé. Voilà. Donc j'ai dit oui. Et je remercie justement ce donateur, ce ouais. contributeur. Je le remercie grandement car sans lui, on n'aurait pas pu avancer sur tout ça.
Donc l'adresse, c'est. Le lien, c'est Eloasso.
Eloasso, voilà. Sur et le site Eloasso, vous tapez.
Et on sélectionne les jardins de Frédérisca.
Les jardins de Frédérisca, oui.
Ok.
Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, on peut me contacter personnellement. Je pourrais vous envoyer le lien directement si vous souhaitez contribuer et prendre part à cette nouvelle aventure.
Vous avez déjà des supports de communication ?
Alors non, pas encore. Effectivement, comme nous n'avons pas encore commencé notre activité, j'ai créé une page Facebook. Pour l'instant, elle est vide.
Et qui s'appelle les Jardins.
Qui s'appelle les Jardins de Frédérisca. Oui, tout à fait. Mais je ne l'ai pas encore mise à la diffusion du public.
D'accord. Voilà. D'où vient ce nom d'ailleurs, les jardins de Frédérisca?
Bon, alors, pourquoi Frédérisca? Lorsque nous étions en plein montage du dossier, Frédéric, ici présent, a perdu sa mère. Et c'était une femme, c'était une dame que je connaissais et que j'appréciais beaucoup. Et je lui ai proposé, eh bien, écoute, en hommage à maman, on peut donner au jardin son prénom. Et il a accepté.
Mmh. Quelles sont vos ambitions, en fait, pour ce projet? En vous projetant, comment vous le voyez à moyen terme, voire même à long terme, c'est-à-dire dans les 4-5 ans, peut-être Frédéric Bouneau, dans votre tête aujourd'hui, quel film faites-vous quand on porte un projet, on a une vision. C'est le cas de tous les porteurs, tous les entrepreneurs, et je pense que vous n'y échappez pas. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire partager ce film que vous avez, ce scénario?
Alors, le scénario que je vois, c'est produire, au bout de 5 ans, réussir à produire 500 paniers semaine, composés de 9 fruits et légumes différents.
D'accord.
Aux adhérents,
d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce volet-là, mais les Guyanais qui nous écoutent peuvent adhérer au projet en devenant membres.
C'est ça. Donc, nos adhérents sont également nos consommateurs. D'ailleurs, ce sont nos consomme-acteurs.
Ok.
Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui font vivre la structure. Ils font vivre la structure, pourquoi? En adhérant justement à un système d'abonnement, un abonnement mensuel qu'ils payent. Et chaque semaine, ils sont livrés, ils se voient livrer un panier de fruits et légumes.
Dès maintenant, on peut adhérer?
On peut déjà adhérer dès maintenant, oui. Par contre, il faudra attendre...
Oui, pour avoir son panier. Oui.
Son panier, il faudra avoir... Faudra
ça se reprend, parce que vous n'avez pas encore lancé...
C'est ça, il faudra attendre le dernier trimestre de l'année pour pouvoir avoir son premier panier, oui.
D'accord. On peut avoir une idée du coût de l'adhésion?
Le coût de l'adhésion, il n'est pas élevé. Il est de 25 euros, l'adhésion. Puisque derrière ça, dès qu'ils adhèrent, ensuite, ils payent leur abonnement mensuel.
D'accord, ok. Et là, ils pourront être livrés au travail... À domicile.
C'est ça. La seule condition est de résider sur le territoire de la CACL, parce que pour le moment, nous nous sommes fixés une limite géographique qui est le territoire de la CACL, qui déjà est composé d'une grande partie de la population guyanaise.
Oui, sans oublier l'Ouest, où nous émettons sur le 89.2, où vous avez une démographie qui est galopante. Oui. Est-ce que là aussi, vous avez comme projet, dans un deuxième temps, d'attaquer l'ouest de la Guyane?
Comme indiqué, c'est un projet microéconomique qu'on espère déployer sur toutes les grandes communes et villes où il y a une forte concentration démographique, où on a également un grand nombre de personnes en situation précaire, demandeurs d'emploi. Voilà, là où le projet se justifie, on espère le déployer, en fait.
Le but, à vous entendre, c'est pas vraiment de gagner de l'argent. C'est vraiment... derrière ça, il y a toute une philosophie, il y a toute une... Il y a tout un élan citoyen.
C'est ça, c'est exactement ça. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous, on fait ça avant tout parce qu'il y a un grand volet économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce que le jardin nous permettra de porter un dispositif panier solidaire. Donc oui, si on fait ça pour gagner de l'argent, c'est clair qu'on n'a pas choisi le bon secteur d'activité ou bien la bonne initiative. Non, le but est vraiment de venir en aide aux acteurs qui sont fortement sollicités, surtout par rapport à la crise, et de démontrer qu'il y a des systèmes qui existent, il y a une possibilité pour que tout le monde puisse avoir accès justement à une alimentation correcte, régulière surtout, parce que quand on entend que tant d'étudiants ne peuvent pas s'alimenter correctement, alors qu'en Guyane il suffit de tendre la main et on peut cueillir une mangue ou je ne sais quoi d'autre, c'est un peu aberrant tout ça. Donc nous, on intervient pour proposer en fait cette solution et voir comment le déployer à grande échelle.
C'est vrai qu'on entend souvent dire que c'est extrêmement compliqué d'avoir une parcelle en Guyane ou d'accéder aux fonciers pour développer un projet. Votre exemple, finalement, prouve le contraire?
Alors, compliqué, c'est une démarche à suivre. Voilà, nous, dans le cadre d'une association, on n'a pas pu faire une demande lambda d'attribution de foncier. On a dû faire appel à des communes, à des collectivités. Et justement, la commune qui nous a répondu favorablement est la commune de Macoria.
Il y a une contrepartie ?
Donc, il y aura une contrepartie, bien sûr. Déjà, c'est mettre en valeur la parcelle, démontrer que nous n'usons pas du foncier communal pour rien. Ensuite, une autre contrepartie, en bouclant la convention, en fait, on aura plus de détails.
D'accord. Et la durée de la session ?
La durée de la session, là également, on aura plus de détails.
99 ans, peut-être ?
Ah, c'est à voir, parce que je pense qu'on doit d'abord faire nos preuves. Et je doute que la commune puisse mettre à disposition son foncier pour 99 ans dès le départ. Donc ce sera à nous de faire le travail déjà, de démontrer qu'on est là, qu'on n'est pas là pour rien. Et ensuite, lorsqu'on aura gagné nos galons, je pense que ce sera plus intéressant pour nous.
Très bien. Écoutez, félicitations messieurs, et puis bonne continuation. Et puis revenez quand vous voulez pour nous faire un point d'étape.
Eh bien, merci à vous
sur ce beau projet atelier chantier d'insertion à Macoria. Un entretien à retrouver sur nos antennes en multidiffusion, nos antennes de Cayenne, Saint-Laurent, et puis en vidéo, bien évidemment, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci à vous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.